Bonjour à tout le monde. On continue notre série donc sur Abraham. On prendra le chapitre 18, les versets 1 à 15 aujourd'hui. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les mains et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. » Dieu apparaît une nouvelle fois à Abraham. Il a défini au chapitre précédent son alliance avec l'homme et il me semble qu'il revient pour évaluer un petit peu ce qui se passe et cela sera nécessaire. Et il va rappeler le fondement incontournable de cette alliance qui concrétise une relation restaurée de Dieu avec l'homme. Cette relation d'amour, de paix, de bénédiction éternelle n'est possible que par la foi en l'Éternel. L'homme ne peut redevenir juste aux yeux de Dieu que par la confiance en l'Éternel. Genèse 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » C'est simple, mais c'était une des vérités incontournables et fondamentales de la Bible. En réponse à son alliance, Dieu n'attend pas de nous une démonstration de force de notre foi par des œuvres, mais il nous invite à une foi simple et vraie, fortifiée par la connaissance de ses paroles, fortifié par la prise en compte de son œuvre à la croix et l'espérance de son retour, espérance de l'accomplissement complet de son plan. Alors, s'il fallait retenir une chose peut-être aujourd'hui, c'est ne cherchons pas à impressionner Dieu par nos vies, mais laissons l'Éternel nous étonner par sa toute-puissance dans une attitude de foi à sa parole. Et nous commencerons aujourd'hui par découvrir l'accueil quasi parfait d'Abraham envers ses visiteurs, puis nous étudierons la réponse pleine de grâce de l'Éternel face à ce service haut de gamme. Alors, un accueil quasi parfait, versets 1 à 8, accueil quasi parfait d'Abraham. Même départ que le chapitre 17, une apparition de l'Éternel. On sait qui est là. Mais cette fois, trois détails sont donnés au verset 1. Une précision géographique parmi les chênes de Mamré. un endroit propice à l'adoration, où Abraham a déjà rencontré Dieu, un endroit où il est revenu s'humilier après ses errements, un endroit où il se trouve à nouveau et où il va se prosterner devant Dieu. La deuxième précision sur le mode de vie d'Abraham. Il est assis devant sa tente, signe d'une vie loin de la ville de Sodome où les habitants étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel, Genèse 13, verset 13. Signe aussi d'une vie peut-être simple, détachée des contraintes matérielles. Signe aussi d'une vie paisible dans l'attente de la promesse de Dieu, loin de toute agitation, loin de toute activité, bien souvent néfaste à toute relation avec notre Créateur. Et une dernière précision sur l'instant, c'est pendant la chaleur du jour, donc sur les heures les plus chaudes de la journée où il était normal de s'abriter du soleil, de se reposer, surtout pour des personnes âgées. Et avec sagesse, Abraham est assis, certainement à l'ombre de sa tente ou des chênes. Il semble veiller, mais en fait, il est prêt à marcher devant la face de l'Éternel. C'est ce qu'on découvre dans le verset 2. Alors, quel changement depuis le début de son parcours. On avait l'impression que Dieu ne cessait de le remorquer, de le sortir de ses erreurs. Il est aujourd'hui dans un endroit, une attitude d'attente et une disponibilité. Et il a une disponibilité favorable à toute rencontre, comme celle de la venue de notre Seigneur en personne. Et j'ajouterais que, quelle que soit la forme de cette visite, parce que beaucoup d'encre a coulé chez les commentateurs bibliques, pour détailler qui étaient ces trois hommes du verset 2. Et pour savoir si Abraham a compris immédiatement s'il avait affaire ou pas à l'Éternel. Et aussi, quand est-ce qu'il les a vus ? Quand il les a vus au verset 2, est-ce qu'il a compris que c'était l'Éternel, ou est-ce que quand il les entend, ou est-ce quand il les entend dire fais comme tu dis, ou à un autre moment? Alors pour ma part, je penche pour une compréhension quasi immédiate d'Abraham, mais je dirais presque peu importe, car la parole de Dieu nous exhorte à l'hospitalité à de nombreuses reprises. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Romains 12, verset 13. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Hébreux 13, verset 2. Et Jésus dira dans Matthieu 25, en parlant de son retour glorieux, en parlant du jugement et de ceux qui seront considérés comme justes, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Qu'Abraham ait discerné ou pas qui était devant lui et quand n'est pas le centre du problème. Ce qui compte, c'est la façon, le zèle, le cœur qu'il a mis pour honorer ses visiteurs de la meilleure façon possible, comme si c'était pour Dieu. Et le texte nous indique clairement qu'il s'agit d'une apparition de l'Éternel. Et sur cet aspect accueil, Abraham obtient une excellente note, pas de retard à l'allumage. Quel contraste entre le verset 1 et les versets 2 à 8. verset 1, c'est la basse tension, une impression de léthargie règne. En revanche, les versets 2 à 8 peuvent donner le tournis. On y découvre un Abraham survolté dès qu'il voit les trois hommes, une scène presque irréelle. Verset 2, il se met instantanément à courir vers les hommes. Presque, il devance leur appel. Ils n'ont pas besoin de sonner. Abraham n'a pas sorti le panneau « Ne pas déranger » pour être tranquille. Lui qui a presque 100 ans, n'a-t-il pas droit à la sieste ? Imaginez aussi à cet âge l'effort pour se lever après un temps d'inactivité, remettre en marche la mécanique, se redresser avec un dos douloureux, mais en plus de courir. Alors, quel magnifique changement d'Abraham qui s'était révélé hésitant et balbutiant dans ses premiers pas de marche dans la foi, d'assister par l'Éternel. Il est devenu une personne prompte à le servir et je dirais à discerner sa présence, car il se prosterne devant les trois hommes jusqu'à terre. Il ne se contente pas d'une légère courbette ou d'une révérence classique. J'ai regardé, il existe quelques cas dans l'Ancien Testament où une personne se prosterne jusqu'à terre devant une autre. Mais dans la très grande majorité des cas, cette attitude est réservée à une marque de respect devant Dieu ou devant une personne personnifiant Christ. Par exemple, Ruth qui se prosterne jusqu'à terre devant Boaz et elle dira « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» Abraham, le père d'une multitude, celui avec qui le Tout-Puissant a fait alliance, a su rester humble et respectueux devant Dieu. Il ne s'en est pas fait un copain que l'on va voir quand ça nous arrange. Il était bien devant sa tente. Il profitait d'un bon temps calme. Ne pensez-vous pas que tout simplement, il aurait pu les appeler de loin et leur demander de s'approcher. « Hola, venez par là, vous avez besoin de quelque chose ?» Ou il aurait pu siffler un de ses serviteurs pour qu'ils aillent voir. Non, il veut les honorer lui-même, il veut s'impliquer et il le fait avec empressement. Et à l'image de Ruth, il supplie celui qu'il appelle Seigneur d'accepter son hospitalité. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi t'accueillir et pourvoir à tes besoins. Proposition qui reçoit l'approbation des trois hommes. De l'eau pour se laver, du pain pour se restaurer, de l'ombre pour se reposer, c'est parfait. Fais ainsi, fais comme tu l'as dit. Et là, soudain, le rythme de l'action s'emballe encore plus. Presque, je dirais, d'une façon burlesque, comme un film ancien en noir et blanc. Abraham, un vieillard qui sort juste de sa sieste, court et gesticule dans tous les sens en plein cagnard. Toi, de l'eau pour les désaltérer. Toi, une bassine, des serviettes pour leur laver les pieds. Toi, là-bas, sors les chaises longues. Mais le morceau de pain se transforme en d'excellents gâteaux. Abraham s'empresse de trouver Sarah dans la tente et de lui ordonner de faire rapidement une quantité démesurée de gâteaux avec la meilleure farine qui soit, la fleur de farine. Puis il court encore pour chercher un veau de premier choix et l'amène à un serviteur pour qu'il se dépêche de le préparer. Mais ce n'est pas encore fini. Il se procure du lait caillé, puis du lait, et il amène le tout et le présente à ses hôtes. Waouh ! Quel exemple d'hospitalité, quelle belle image aussi d'une famille où la femme aide son mari rapidement, sans râler, où le serviteur obéit à son maître avec empressement, où le maître montre l'exemple en faisant sa part de travail. Tout est nickel, parfait. Jusqu'à l'attitude d'Abraham qui reste debout. Et j'insiste encore par rapport à son âge. Il reste debout, il reste en présence de ses invités, prêt à agir, prêt à leur faire du bien. Fin de cette scène qui m'a semblé quelque peu burlesque. Deux remarques. Quelle église ne rêve pas de disposer d'une équipe d'Abraham pour organiser l'accueil lors de ces rencontres. Des Abraham qui voient, qui vont au contact des visiteurs, qui les saluent avec respect, avec humilité, qui s'intéressent à eux, qui se préoccupent de leurs biens, de leurs besoins, et qui les placent au mieux possible et les entourent jusqu'à leur départ. Mes frères, mes sœurs, même si le comportement d'Abraham peut paraître burlesque, soyons sûrs que ce modèle d'accueil que nous laisse Dieu est une leçon pour notre vie et la façon dont nous accueillons l'étranger, celui peut-être qu'on ne connaît pas. Alors c'est sûr, le dimanche, on a envie de prendre des nouvelles des uns et des autres, c'est naturel. Mais ne laissons personne seul dans notre champ de vision. Comme Abraham, courons vers eux et servons-les comme s'ils étaient l'Éternel. Avec cette espérance qu'un jour au ciel, à la question « quand avons-nous vu étranger ?» Jésus, notre roi, couronné de gloire, répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Deuxième remarque, quoi de mieux que la vie de tous les jours pour pratiquer l'accueil, développer cette attitude. Je ne sais pas s'il passait beaucoup de monde à Mamré, si la sieste d'Abraham était systématiquement écourtée. Mais pour ceux de nous qui vivent en ville, ce n'est pas le monde qui manque. Essayons à l'image d'Abraham de lever un petit peu les yeux, c'est-à-dire de nous intéresser à ce qui se passe autour de nous et allons vers les gens avec l'intention de les bénir. C'est ce qu'a fait Abraham. Il l'a fait même à un moment où c'était très difficile pour lui, en pleine sieste. Par exemple, vous avez repéré une personne qui se promène toujours seule. Priez et faites le pas un jour d'aller vers elle, de la saluer, d'engager une conversation. Bonjour, je vois que vous passez souvent par ici, vous aimez le quartier. Vous essayez et puis vous verrez bien ce qui se passe. Essayez de faire cet effort. Vous verrez, si vous le faites pour Dieu, combien cela peut être à plus ou moins long terme gratifiant, encourageant pour votre foi. Surtout le jour où une occasion d'annoncer l'Évangile se présente, où une porte s'ouvre. C'est comme voir le royaume de Dieu avancer, sa parole se diffuser. Quel bonheur! Et hier, en préparant ce message où Abraham court à la rencontre des visiteurs, ben je vois par la fenêtre mon voisin, il s'appelle Thierry, et à qui j'avais parlé du concert de samedi prochain. Et alors depuis, on a reçu les flyers, et là je pense, tiens, il faut que je lui en donne un. Mais dans un premier temps, je me dis, ah non, c'est pas le bon moment, là. Je suis en train de travailler ma prédication. Mais quasi instantanément, j'ai un warning qui s'allume et qui dit « Oh, pupé, tu as déjà oublié ce que tu viens d'écrire ?» Et je bondis de ma chaise, je récupère à l'étage au-dessus l'invitation et je cours dans la rue pour le rattraper et je lui demande de m'accorder une minute pour lui présenter l'invitation. Alors bien sûr, je n'ai pas dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte cette invitation. » Mais il m'a répondu, bien, c'est sûr, on viendra. Et mon cœur a pris un coup. Et Abraham nous montre cette facette incontournable d'un homme entré dans l'alliance avec Dieu. Il a la foi remplie d'un serviteur, il a la foi d'un serviteur, pardon, remplie d'amour pour son prochain. Après l'obéissance et la marche intègre de la semaine dernière, la marche intègre devant la face de l'Éternel, la parole de Dieu nous invite à pratiquer l'amour de notre prochain. Nous ne croyons pas en communion avec Dieu si nous ne sommes pas en communion les uns les autres, si nous ne pratiquons pas l'amour de notre prochain, si nous ne faisons pas un pas vers notre voisin. Abraham est donc sur une bonne voie. Il sert le plan de Dieu. Et à la fin de cette scène, il est disponible pour ses invités. Il est debout, prêt encore certainement à les servir. Mais il me semble que le côté burlesque de la scène révèle qu'il y a quelque chose qui cloche. Que sa démonstration de force n'est pas ce qu'attend vraiment l'Éternel. Le service si haut de gamme d'Abraham ne reçoit pas une pleine approbation de l'Éternel. C'est notre seconde partie. Une réponse pleine de grâce de l'Éternel, versets 9 à 15. Abraham éprouve certainement de la satisfaction. C'est sûr. Là, j'ai fait une grosse impression. Ils s'attendaient à un pique-nique, je leur ai servi un festin de roi. Heureusement que j'ai reconnu l'Éternel, sinon c'était la cata. Et j'imagine qu'il est aussi content de sa femme qui elle aussi, malgré son grand âge, l'a aidé, alors que ce n'était pas prévu. Et que dire de son serviteur, sollicité peut-être sur une heure de pause, mais il s'est empressé d'obéir. Abraham peut être fier de la gestion des biens que l'Éternel lui a confiés. N'est-ce pas des pensées que nous pouvons ressentir parfois devant Dieu, de l'autosatisfaction de ce que nous faisons pour lui. Tu as vu, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Un peu comme ce jeune homme riche qui vient voir Jésus dont l'histoire est racontée dans Matthieu 25. Dans trois évangiles sur quatre. J'ai plus la référence en tête. Il croit avoir tout bien fait à la perfection. Il s'attend certainement à des félicitations, mais Jésus lui dit « Il te manque encore quelque chose ». Quand Abraham, au verset 5, affirme que les trois hommes sont passés par chez lui pour une pause ravitaillement, je ne suis pas sûr que c'était l'objectif principal de l'Éternel, même si la réponse est « fais comme tu as dit ». Abraham, je pense, s'attendait à minima à des remerciements. Peut-être les a-t-il reçus, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu met en évidence. Verset 9. Où est ta femme, Sarah ? Et il est évident que là, l'Éternel connaît la réponse. Et pour ma part, je comprends cette question comme comment se fait-il que Sarah ne soit pas avec toi, à tes côtés ? Et il y a, à mon sens, une sorte de reproche. Et l'on comprend par la suite que ce qui clochait dans cette scène quasi parfaite d'hospitalité, on comprend ce qui clochait. Sarah, bien que très serviable et obéissante, agissait sans une foi profonde en l'Éternel, en sa toute-puissance et en ses promesses. Peut-être croyait-elle que Dieu existe, mais pas beaucoup plus. Par soumission à son mari, elle suivait. Et ce manque de foi est confirmé. Alors déjà, par sa bidouille avec Agar, qu'on a vu au chapitre 16, mais aussi par la suite de notre texte. À la question de l'Éternel, Abraham répond « elle est dans l'attente ». Mais je crois que l'Éternel demandait à Abraham « mais comment se fait-il que tu ne sois pas en communion avec Sarah ? Pourquoi ne partage-t-elle pas la même foi en moi, en mes promesses ? C'est toi le mari, c'est avec toi que j'ai fait l'alliance. » Et je ne m'étendrai pas sur le sujet des responsabilités de chacun dans un couple, mais ce texte, à minima, confirme le rôle de l'homme comme responsable spirituel du couple devant notre Seigneur. Et ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui me semble primordial. Mes frères, de grâce, prenez votre rôle de chef spirituel au sérieux. Ne le négligez pas. L'enjeu est énorme. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Vous comprenez pourquoi l'hospitalité d'Abraham, des versets 1 à 8, n'est pas mise en valeur par le Seigneur. Alors, c'est super qu'il ait agi comme cela, mais derrière cela, il me semble qu'Abraham, même si lui avait une foi profonde, il n'avait pas dans ses priorités l'accomplissement des promesses de Dieu. Il n'avait pas compris que tant que Sarah n'aurait pas cru en la fidélité de Dieu, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. C'est seulement par la foi, nous dit l'Écriture, que Sarah a été rendue capable d'avoir une descendance. Abraham ne semble pas s'être suffisamment préoccupé de la foi de sa femme. Avait-il suffisamment parlé avec Sarah de l'Alliance ? Avait-il suffisamment parlé des promesses de Dieu ? Lui avait-il répété les paroles de Dieu pour susciter sa foi ? S'il n'y a pas de prédicateur, comment la foi peut-elle se transmettre ? Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Et l'Éternel, verset 10, dans son immense grâce, rappelle à Abraham sa parole, son projet, c'est le vrai but de sa visite. « Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » C'est le bis repetita du chapitre 17, mais attesté par la venue en personne de l'Éternel. Façon de dire au couple, car Dieu sait très bien que Sarah entend, tenez-vous prêts, ma promesse va s'accomplir. Attendez-vous à de grandes choses, même si à vue humaine, c'est impossible. Et l'auteur biblique, avec une grande délicatesse, pour que peut-être nous ne jugions pas Abraham ni Sarah, confirme au verset 11 cette impossibilité au couple à vue humaine d'avoir des enfants. Oui, c'est dur d'y croire. Malheureusement, Sarah n'est pas encore prête et verset 12, en riant, elle confirme son incrédulité aux promesses de Dieu. Alors, Abraham avait fait un peu la même chose au chapitre précédent, mais Abraham avait d'une certaine façon avoué à l'Éternel son incrédulité en lui demandant d'agir plutôt avec Ismaël. C'était une façon de lui dire eh bien, viens au secours de mon incrédulité. Il avait été intègre. Là, c'est encore trop tôt pour moi d'y croire, Seigneur. Et Dieu l'avait aidé dans sa foi avec grâce en lui révélant jusqu'au nom du Fils qui allait naître et en lui garantissant une bénédiction pour Ismaël. Et l'Éternel, verset 13, au lieu de se mettre en colère pour le fait qu'on remette sa parole en question, se révèle un peu plus à Abraham et Sarah, et Sarah par indirection, car elle entend. Il se révèle dans une réponse à nouveau pleine de grâce. Et il dévoile, en démasquant Sarah qui a ri, sa capacité à voir au fond de nos pensées. Et ce qui signifie qu'il voit tout, il entend tout, il sait tout de nous, même nos pensées les plus intimes. Puis dans ce magnifique verset 14, il montre qu'il est sans limite. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Job dira, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » N'est-ce pas la bonne réponse à faire à l'Éternel quand il nous surprend dans l'incrédulité plutôt que de mentir ? Et enfin, il confirme sa bonté, il confirme sa patience, son immuabilité, quels que soient nos errements. Son plan est acté, planifié, il ne changera pas. Il répète sa promesse, elle est toujours la même. L'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Le projet de Dieu est clair. Alors, tu peux rire comme Sarah, tu peux mentir aussi comme Sarah, par peur de Dieu, mais un an plus tard, Isaac naîtra, Sarah aura cru. La promesse de Dieu se sera accomplie. Et imaginez les premiers lecteurs de ce texte, le peuple d'Israël dans le désert. Il est juste libéré de l'esclavage d'Égypte, mais il est dans la galère du désert. Il doute. Et il peut lire ce texte. Et quel encouragement pour eux de découvrir les promesses de Dieu et leur accomplissement. Dieu, lui, n'a pas menti. Ils peuvent se dire, nous sommes devenus par le fils d'Abraham un peuple nombreux. Nous avons été libérés de la période d'asservissement annoncée par Dieu à l'époque d'Abraham, chapitre 15. Comme promis, nous sommes comblés de richesses. Alors, pourquoi douter de la suite ? Nous arriverons, en croyant à ces promesses, par la foi, nous arriverons dans le pays promis, dans le pays de Canaan. Voilà, avec la foi, ce qu'ils pouvaient se dire. Voilà ce qu'ils pouvaient espérer. Et c'est pareil aujourd'hui pour nous. C'est, si tu crois dans toutes les prophéties de la Bible, et en particulier à celle du descendant ultime d'Abraham, alors tu seras sauvé. Tu passeras pour l'éternité dans le camp des justes. Et ce descendant ultime, c'est celui dont nous fêtons la naissance à Noël. C'est le Fils promis par Dieu, c'est le Sauveur. C'est l'objet de notre foi, il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui, par son sang versé à la croix pour le pardon de nos péchés, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu dans une nouvelle alliance et nous offre la vie éternelle par sa résurrection. Et tout cela par grâce, gratuitement. C'est la réponse pleine de grâce de l'Éternel à notre incrédulité. Alors, pour conclure, je dirais, ne cherchons pas à étonner l'Éternel par des œuvres extraordinaires, par un service haut de gamme, mais laissons-nous par la foi étonner chaque jour par sa toute-puissance et servons-le autour de nous en le faisant connaître. Voilà ce que je voulais vous laisser aujourd'hui. Prions. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es un Dieu qui nous visite. Tu l'as fait pour Abraham, tu l'as fait pour nous au travers de Christ qui nous a offert par grâce ton salut éternel. Merci car tu continues à le faire encore aujourd'hui par ton esprit qui vit en nous. Vraiment, nous voulons te prier pour que nous puissions reconnaître chaque jour, te reconnaître chaque jour, que nous puissions sentir cet esprit et que tout cela, nous puissions le faire dans le but de te glorifier par notre foi mise à ton service. Et pour cela, nous avons besoin de ton conseil afin que nos motivations soient inspirées de tes pensées. Aide-nous en particulier à être attentifs sur la foi de nos proches, dans nos familles, dans notre Église. Et donne-nous les forces et le zèle de raconter tes merveilles autour de nous afin que le monde sache qu'il n'y a rien d'étonnant, qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, le Dieu Tout-Puissant. Amen.
mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint,